suite le journal. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Theresa May s'exprime pour la première fois ce soir à Bruxelles devant ses collègues européens. La chef du gouvernement britannique souhaite apaiser les craintes d'un Brexit dur. On sera en ligne pour en parler avec Antoine Gignot dans un instant. Menace sur le traité de libre-échange avec le Canada. Malgré les pressions qui viennent de toutes parts, la Wallonie reste inflexible sur son refus, dossier suivi par Anne-Laure Chouin. L'armée irakienne, les miliciens kurdes poursuivent leur progression vers Mossoul. On retrouvera sur place Philippe Randé. Et pendant ce temps, à Paris se tient une conférence sur l'avenir de la ville une fois qu'elle sera libérée. François Hollande met en garde contre la fuite de djihadistes de Mossoul vers Raqqa en Syrie. Compte rendu de cette séance avec Sarah Maquet. La trêve humanitaire qui a été décrétée par Moscou à Alep est entrée en vigueur. Aucun habitant des quartiers rebelles n'a toutefois pour l'heure emprunté ces couloirs établis pour évacuer les civils et les rebelles qui le souhaitent avant peut-être une prochaine offensive, nouvelle offensive syro-russe. Analyse avec Éric Biegala. La politique française est la surprise du premier tour de la primaire chez les Verts. Cécile Duflot n'arrive qu'en troisième position derrière l'eurodéputé Michel Rivasi et Yannick Jadot qui est en tête. Analyse avec Sophie Delpont, l'invité de la séquence interview, Gilles Boyer qui est directeur de campagne d'Alain Juppé. Ce sera donc son premier sommet européen. Nous sommes 3 mois après son arrivée à Downing Street. Theresa May participe tout à l'heure et demain à Bruxelles au sommet des 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Elle va s'exprimer donc pour la première fois devant tous ses collègues et pour la première fois aussi évidemment devant le vote du Brexit pour redire sa volonté d'activer avant la fin du mois de mars prochain l'article 50 du traité de Lisbonne, ce qui va donc lancer en principe les négociations de sortie de l'Union. Des négociations qui sont de toute façon extrêmement complexes. Madame May souhaite en effet appliquer un contrôle de l'immigration des citoyens de l'Union, donc à ses frontières, tout en restant dans le marché unique. Et c'est toute l'équation. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Comment compte s'y prendre Madame May ce soir ?
C'est effectivement une théorie, une équation absolument impossible à résoudre. Les dirigeants européens l'ont dit et répété, il n'y aura pas de libre circulation des biens s'il n'y a pas en parallèle de libre circulation des personnes. Est-ce que vous m'entendez à Paris ?
Voilà, ça y est, excusez-nous, je crois qu'on a eu un petit problème de niveau de son, mais qui est maintenant réparé. Si vous voulez bien reprendre votre papier, ça sera plus simple.
Effectivement, c'est en théorie, vous le disiez, une équation absolument impossible à résoudre. Les dirigeants européens l'ont dit et répété, il n'y aura pas de libre circulation des biens s'il n'y a pas en parallèle de libre circulation des personnes. En face, Theresa May cherche à obtenir le contrôle des frontières tout en gardant un accès au marché unique. Pour y arriver, c'est une sorte d'arrangement à l'amiable que pourrait proposer la Première ministre en payant par exemple une partie des subventions destinées aux pays de l'Est, c'est ce que disent des sources proches des instances européennes. Dans le même temps, le gouvernement, après avoir beaucoup parlé d'immigration, tente maintenant de rassurer les milieux financiers. Même David Davis, le ministre du Brexit, pourtant favorable à une sortie totale de l'Union européenne, l'a dit ce matin devant le Parlement, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garder au Royaume-Uni les activités financières de clearing, autrement dit pour rester une plaque tournante de la compensation monétaire en Europe. Car aujourd'hui, presque un tiers des transactions financières de la City se font en euros et la dernière étude réalisée par le ministère des Finances fait frissonner les hommes d'affaires. Même si le Royaume-Uni sort en douceur de l'Union européenne et garde un accès au marché unique tout en mettant en place des barrières douanières, le produit intérieur brut du pays chutera, selon les spécialistes, de près de 4,5%.
Antoine Gignot, merci beaucoup. Donc vous étiez en direct de Londres. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, dit craindre, lui, un débat très houleux. La vérité brutale, dit-il, c'est que le Brexit sera une perte pour nous tous. Il n'y aura pas de gâteau sur la table, seulement du sel et du vinaigre. Fin de citation. Autre difficulté pour les 28 à ce sommet de Bruxelles, c'est la signature du traité de libre-échange avec le Canada. Car malgré les pressions qui sont venues de toutes parts et qui continuent sur la Wallonie, eh bien les Wallons refusent toujours de céder. La Commission avait donné à la Belgique jusqu'à demain, second jour du sommet, pour qu'elle s'aligne donc sur les 27 pays membres de l'Union, les autres pays. Mais d'autres obstacles se sont dressés. À nouveau, hier soir, par exemple, le gouvernement bulgare prévient qu'il ne va signer ce traité que s'il obtient des exemptions de visa pour ses ressortissants qui sont désireux de se rendre au Canada. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Antoine.
Où l'on constate une nouvelle fois que l'Europe a un peu de mal avec la démocratie.
Effectivement, on peut se demander ce qu'a de si choquant le fait qu'une assemblée représentative à qui on demande son avis dise non, il faut continuer à discuter. Cela revient à dire que la démocratie elle-même est choquante, d'autant que dans ce cas de figure, le non n'est pas définitif. Ce qui pourrait apparaître choquant à l'inverse, ce sont les menaces à peine voilées dont fait état Paul Magnette, le ministre président de Wallonie. La Wallonie où se trouve Charleroi où se trouve un site de Caterpillar, site menacé de disparition. disparition. Or, la Commission européenne, qui envisageait sérieusement d'attribuer une partie de son fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour soutenir les emplois qui sont menacés de disparaître, cette commission menacerait désormais de ne pas le faire. Malgré cela, les députés wallons tiennent bon et ce grain de sable qui a enrayé la grosse machine européenne a donné des idées, vous le disiez, à d'autres petits États comme la Bulgarie et la Roumanie. Ces deux gouvernements réclament depuis plusieurs années la levée de l'obligation de visa canadien pour leurs ressortissants. S'ils ont obtenu un accord de principe, ils disent ne pas vouloir signer le CETA sans accord formel. L'enjeu donc de cette confrontation à la David contre Goliath, c'est bien un enjeu démocratique. Si l'on donne la possibilité à une assemblée régionale de s'opposer à la signature d'un traité international, pourquoi ensuite l'enjoindre de changer d'avis avant une date butoir? C'est un très mauvais signal donné par l'Europe qui cherche à discréditer par tous les moyens cette manifestation démocratique. La Wallonie est ainsi accusée d'affaiblir l'Union européenne. Ces mots sont d'Emmanuel Macron, interrogé hier à ce sujet. Mais l'Europe ne sortirait-elle pas bien plus affaiblie si elle passait outre un refus wallon plutôt que de continuer à négocier un traité dans lequel elle est finalement en position de force avec ses 28 États face à un seul État canadien qui compte en outre moins d'habitants. Enfin, plus largement, le péché est originel, si l'on peut dire. En ayant choisi de mener, il y a 7 ans de cela, des négociations sans transparence, il y avait fort à parier que cette opacité reviendrait en boomerang une fois les termes du traité connus du grand public.
Merci beaucoup. Anne Lorchouin, c'était très clair. On salue l'invité de la séquence interview, Gilles Boyer. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, est-ce qu'il faut passer outre le vote du Parlement wallon?
Ça met au jour les difficultés de fonctionnement de l'Union. Soit on décide au début que l'Union européenne est mandatée par les États membres pour négocier le traité de libre-échange avec le Canada. Et ensuite, dans ce cas-là, si elle est mandatée, eh bien, ma foi, on applique ensemble le traité négocié. Soit on décide qu'elle n'est pas mandatée et que ce sont les États membres qui négocient. À ce moment-là, chacun le fait de son côté à ses risques et périls. Visiblement, on est entre les deux. Visiblement, on a un 29e État membre aujourd'hui dans l'Union européenne, la Wallonie. On a eu un élargissement caché. Chacun a le droit de s'exprimer, mais je pense que le vice de procédure, il est à l'origine de la démarche et pas aujourd'hui.
Donc dans le projet d'Alain Juppé, il y a cette réforme aussi du fonctionnement de l'Europe qui est inscrite.
Oui, il l'a dit. D'abord, les institutions européennes sont en train de mettre à mal l'idéal européen. On est en train de confondre les deux. L'idéal européen est en train de mourir des dysfonctionnements institutionnels. Donc en effet, Alain Juppé propose de remettre à plat un petit peu le fonctionnement de l'Union européenne, d'essayer d'identifier ce qui nous rassemble. Qu'est-ce qui fait qu'ensemble, nous, Français, Belges, Espagnols, Italiens, Allemands, Anglais, qu'est-ce que nous avons en commun et qu'est-ce que nous avons envie de faire ensemble? Et qu'est-ce que nous n'avons pas envie de faire ensemble? Il faut peut-être revenir à l'origine du projet européen. Ensuite, de bâtir ce nouveau projet et de le faire approuver par les peuples d'Europe. Et ensuite, d'avancer sur cette base. Peut-être qu'on a bâti la maison européenne à l'envers.
Gilles Boyer, merci. On vous retrouve donc dans un instant pour la séquence interview. On passe à la guerre en Irak d'abord, avant de voir la situation en Syrie. Il y a des unités d'élite de l'armée irakienne qui marchent avec des miliciens kurdes en ce moment, qui font mouvement en direction de villages tout autour de Mossoul, avec l'appui évidemment de la coalition international sous commandement américain. L'objectif des combattants kurdes est d'encercler la ville avant un assaut qui serait prévu dans quelques semaines. En première ligne, donc, il y a ces Peshmerga kurdes qui avancent parallèlement à l'armée. On retrouve sur place notre correspondant Philippe Randé. Bonjour.
Bonjour.
Alors le président irakien disait ce matin que ses forces avançaient plus vite que prévu. Est-ce que c'est ce que vous constatez sur le terrain?
C'est compliqué, hein. C'est vrai que vu de loin, cette immense plaine aride autour de Mossoul paraît uniforme, presque monotone. Chaque petit village, chaque maison se ressemble. Mais je peux vous dire que depuis le début de l'offensive, très tôt ce matin, chaque mètre gagné dans cette terre ocre, chaque mètre donne lieu à de violents combats. L'armée kurde tire des missiles et des obus, mais beaucoup de Peshmerga nous l'avouent. Ils ne s'attendaient pas à une telle résistance du groupe État islamique. Daesh qui répond aux mortiers, utilisent des snipers, des voitures piégées. 2 drones ont même explosé dans le ciel au-dessus de la colonne de blindés. Amir est un des principaux généraux kurdes.
Daesh sait toujours très bien se défendre. Du coup, on les attaque étape par étape. Comme vous voyez,
Notre premier front progresse. On a nos blindés et nos forces là-bas devant, mais on veut avoir le moins de pertes possible.
Et depuis ce matin, si les milliers de Peshmerga ont repris plusieurs petits villages sur trois différents fronts, les combats à l'arme lourde se poursuivent en ce moment et l'avancée des Kurdes est très très lente. Le bilan humain risque, lui, d'être lourd. Les ambulances font des allers-retours incessants entre les combattants et un hôpital de campagne construit à la hâte dans le désert. Un premier bilan communiqué par des médecins du front où nous nous trouvons fait état de 8 soldats kurdes morts et au moins 40 blessés. Et Mossoul est toujours à 15 km de l'endroit où nous nous trouvons.
Merci beaucoup Philippe Randé, donc en direct de Mossoul, de 15 km, vous venez de le dire, de cette ville de Mossoul, sur laquelle se tient en ce moment à Paris une conférence internationale sur son avenir, notamment après une éventuelle victoire de la coalition. François Hollande a mis en garde ce matin contre la fuite de djihadistes qui iraient de Mossoul se réfugier vers Raqqa en Syrie. On l'écoute.
Nous devons être également exemplaires sur le plan de la poursuite des terroristes qui déjà quittent Mossoul pour rejoindre Raqqa. Et nous ne pouvons pas admettre qu'il puisse y avoir simplement comme réussite une translation, une évaporation de ceux qui étaient à Mossoul vers d'autres lieux où ils pourraient, là encore, mener des actions. Et si nous infligeons à l'État islamique une défaite, et si nous montrons que nous sommes capables de rassembler tous ceux qui ont vocation à se retrouver dans l'avenir de l'Irak, nous aurons non seulement gagné une bataille, mais je pense que nous aurons gagné la guerre.
Voilà, François Hollande, donc ce matin, cette conférence que vous avez suivie pour nous, Sarah Maquet, comment se présente en fait la question de l'après-bataille de Mossoul ?
Comment assurer la paix de tous dans une région où la faiblesse de l'administration irakienne a nourri durant des années frustration politique et base des discours des recruteurs djihadistes? Comment éviter à la population de Mossoul, à majorité sunnite, de subir les éventuelles représailles des milices chiites, généralement entraînées par l'Iran et qui se disent engagées dans la bataille de Mossoul? Quelle place également pour la Turquie dans l'après-bataille? On se rappelle du ton qui était monté la semaine dernière entre Bagdad et Ankara. Le gouvernement irakien ne tolérant pas la présence turque à Bachika, au nord-est de Mossoul. La Turquie, qui entraîne des volontaires sunnites et qui déclarait encore en début de semaine vouloir protéger, je cite, « les frères arabes sunnites ». Reste enfin la question de la protection et de la place des minorités dans la reconstruction de Mossoul. Chrétiens, Kurdes, Yézidis, le premier ministre irakien a déclaré en ouverture de la réunion ici au Quai d'Orsay que tous seront respectés une fois lui chassé. Mais avec quels moyens? Haïder al-Abadi s'est présenté à la tête d'une administration irakienne forte, mais il a reconnu dans le même temps n'avoir que très peu de moyens. Le président français, lui, en écho au Premier ministre et au ministre de la Défense qui se sont exprimés hier, a redit ce matin sa volonté d'empêcher un repli des djihadistes vers leur capitale syrienne autoproclamée. Seule solution alors, selon François Hollande, après Mossoul, il faudra reconquérir au plus vite Raqqa.
Voilà, ça nous amène donc au front syrien maintenant. L'heure est à la trêve humanitaire. Pour quelques jours, en principe, l'armée syrienne annonce l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu unilatéral pour, dit-elle, permettre aux civils et aux rebelles de quitter les quartiers de l'est d'Alep qui sont toujours assiégés. Pour l'heure, d'ailleurs, il n'y a personne en vue à ces points de passage, nous dit notre correspondante Valérie Krova. Et dans le même temps, il faut signaler que les Russes continuent de renforcer leur présence en Méditerranée, sans doute pour un nouvel assaut, car le cessez-le-feu en vigueur pourrait être l'annonce de la suite et de la fin peut-être de cette fameuse offensive russo-syrienne sur Alep. Eric Bigala.
Oui, cette trêve dite humanitaire par la partie russe ne cache pas vraiment son objectif. Il ne s'agit nullement de permettre le ravitaillement des zones d'Alep assiégées, mais bien d'obtenir l'évacuation de ces zones. C'est la méthode qui a été utilisée par le régime syrien et ses alliés à Homs, à Deraya et plus récemment dans deux faubourgs de Damas. On assiège hermétiquement, on bombarde copieusement et on offre in fine une sorte de reddition sous forme d'évacuation de l'endroit, y compris par les combattants. C'est exactement ce que propose le régime et la Russie dans la trêve d'aujourd'hui. Il y a fort à parier évidemment que si les civils acceptent effectivement de quitter Alep Est et parviennent à le faire, ils ne seront au mieux que quelques centaines, peut-être quelques milliers ce mercredi, très peu en tout cas au regard des quelques 250 000 personnes qui resteraient coincées dans ces quartiers est de la ville. La phase suivante, ce sera sans doute un pilonnage renouvelé de ces mêmes quartiers, histoire de les réduire définitivement. La Russie a d'ailleurs prévu un substantiel renforcement de sa puissance de feu en Syrie. Les rotations de navires ou d'avions de transport à destination du nord syrien ont doublé depuis le début du mois. Le nombre de chasseurs et chasseurs-bombardiers basés dans le pays est revenu au niveau niveau auquel il était en mars dernier, quand Vladimir Poutine avait annoncé un retrait de ses troupes, c'est-à-dire autour d'une quarantaine d'appareils. Au moins 3 corvettes lance-missiles russes viennent d'être déployées en Méditerranée orientale. Elles seront bientôt rejointes par le groupe de bataille de l'amiral Kuznetsov. L'amiral Kuznetsov, c'est l'unique porte-avions et le navire amiral de la flotte russe. Il sera flanqué de 5 autres bâtiments, dont un destroyer et un cuirassé. Il est armé d'une quinzaine de chasseurs-bombardiers qui viendront s'ajouter à la force russe déjà présente en Syrie. Il a appareillé il y a une semaine de son port d'attache de Severomorsk en mer de Barents et devrait arriver en Méditerranée orientale à la fin du mois.
Éric Biegala, merci. Du troisième et dernier débat de la campagne américaine qui s'est tenu cette nuit à Las Vegas, les observateurs vont retenir surtout la manière dont Donald Trump a rompu avec une tradition démocratique américaine en refusant de s'engager à accepter les résultats de cette élection présidentielle. Je verrai à ce moment-là, a dit Donald Trump, qui justifie son refus par l'existence selon lui de fraudes électorales massives. C'est terrifiant, répliqua à ce moment-là Hillary Clinton. Dès que Donald pense que les choses ne vont pas dans son sens, eh bien il affirme que tout est truqué contre lui. François Durper, bonjour.
Bonjour.
Historien consultant pour cette élection, pour ce journal de France Culture. Est-ce que ça marque effectivement, selon vous, une rupture dans la démocratie américaine? Et est-ce que c'est aussi peut-être le signe que Donald Trump est pris maintenant dans une sorte de fuite en avant?
Oui, l'historien fait attention lorsqu'il s'agit d'utiliser le mot de rupture. Par exemple, l'agression entre candidats, le fait de se désigner comme étant des menteurs, on se rappelle de 1800, entre John Adams qui accusait Thomas Jefferson d'être un athée, ce qu'il n'était pas, et Thomas Jefferson qui accusait John Adams d'être un royaliste, ce qu'il n'était pas. En revanche, ce qui est tout à fait nouveau depuis les 240 ans de la démocratie américaine, c'est qu'un candidat 20 jours avant l'élection disent, eh bien, je ne suis pas sûr de reconnaître le résultat de l'élection. Alors, on avait bien connu 2000, Al Gore, qui demande un recomptage en Floride, mais c'était a posteriori. Là, a priori, Donald Trump dit, il y a un complot, alors effectivement, oui, c'est une fuite en avant.
Merci beaucoup François Durper, on vous retrouve pour la suite de cette campagne, évidemment pour le jour de l'élection le 8 novembre prochain. La politique française maintenant avec la surprise du premier tour de la primaire chez les Verts. Cécile Duflot n'arrive qu'en troisième position avec près de 25% des voix, mais elle est derrière Michel Rivasi, 30%, et surtout Yannick Jadot qui est à plus de 35%, ancien de Greenpeace, proche des milieux associatifs. Commentaire de Daniel Cohn-Bendit ce matin, les écolos ne font pas payer à Cécile Duflot, comme certains essaient de le dire, sa participation au gouvernement. Non, ils lui font payer le moi. Et puis, il y a le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État, Jean-Vincent Placé, qui dénonce une forme de suicide, donc des écolos, un peu temple solaire. C'est-à-dire qu'on continue dans la secte, dit-il, et puis on essaie de qualifier deux personnes que personne ne connaît. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
Effectivement, c'est pas complètement faux, la théorie de Monsieur Placé.
C'est la quatrième primaire du parti et la quatrième surprise. En 2002, Noël Mamère est éliminé par Alain Lipietz. En 2007, c'est l'égalité quasi parfaite entre Dominique Voynet et Yves Cochet. Et en 2012, souvenez-vous, c'est l'élimination de Nicolas Hulot. Quatre surprises, ça n'est plus vraiment une surprise. Alors, il y a plusieurs explications. Tout d'abord, c'est un corps électoral très réduit, le noyau dur des militants écologistes qui a choisi donc 17 000 inscrits, 12 000 votants. On est loin des primaires des autres partis. Un noyau dur qui n'aime plus Cécile Duflot. L'ancienne patronne du parti, ancienne ministre, paye sa stratégie d'alliance avec le PS. En 2012, cette stratégie était pourtant majoritaire. En première ligne à l'époque, Cécile Duflot permet d'obtenir des groupes parlementaires et des postes de ministres, mais le discours écologiste est moins audible dans le débat public. Et quand Cécile Duflot quitte le gouvernement, ce n'est pas sur un dossier emblématique des écolos, mais en raison de son opposition avec Manuel Valls et sur ses propos sur les Roms. Enfin, Cécile Duflot a axé sa campagne sur l'objectif d'une présidence écologiste. Quand Yannick Jadot déclarait lui qu'il ne se faisait aucune illusion sur la victoire à ce scrutin-là et préparait déjà l'après-présidentielle. Yannick Jadot, c'est l'un des fondateurs du parti. Il rappelle qu'en 2009, ce parti avait créé la surprise dans le bon sens du terme, en récoltant plus de 16% des voix au niveau national et en dépassant même les 20% en Ile-de-France.
Merci Sophie Delpont. Ça nous amène donc directement à la séquence interview 12h49 sur France Culture avec Gilles Boyer, directeur de campagne d'Alain Juppé. Bon, vous ne redoutez pas, Gilles Boyer, un phénomène du flot chez vous à la primaire, c'est-à-dire que celui dont on pense qu'il va gagner, qui finalement ne gagne pas.
J'ai l'impression que les ressorts sont assez différents. Vous l'avez dit, il y avait, je crois, 12 000 votants. Nous en attendons plusieurs millions. Il n'y avait eu aucun sondage sur cette primaire écologiste et pour cause. On était dans la totale incapacité d'en faire. Donc la surprise, elle est aux yeux des observateurs.
Sarkozy veut que si jamais il est élu, bah, vous le Bayrou, par exemple, ne se présente pas, ni Madame Lagarde, notamment, en tout cas, soutienne la candidature de Sarkozy. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ce matin ?
Le positionnement de François Bayrou, il est très clair. Il a choisi d'apporter son soutien à Alain Juppé pour la primaire, tout en étant sceptique sur le processus. Il l'a dit sans relâche, et il a dit qu'il se sentirait libre si Alain Juppé n'emportait pas la primaire, d'en tirer toutes les conséquences. C'est la raison pour laquelle il a dit qu'il ne voterait pas lui-même lors de cette primaire.
Alors, Stéphane Robert.
Les adversaires d'Alain Juppé disent tous qu'il ne faut pas faire confiance au sondage, et pour cause, ils ne les placent pas en tête. En revanche, Alain Juppé semble creuser l'écart au vu de ses sondages. Est-ce que vous réjouissez, vous, de ces enquêtes d'opinion ?
Bon, on fait rarement confiance en sondage quand on n'est pas en tête. Ça, c'est une assez grande constante. Cette primaire, elle répond à des ressorts psychologiques très particuliers. Et c'est une élection qui ne ressemble à aucune autre. C'est-à-dire que jusqu'au dernier jour, nous aurons l'incertitude de la participation, qui rend le résultat extrêmement aléatoire. Donc les sondages vont et viennent. Ce qui est important, c'est d'enclencher une dynamique. Ils disent quelque chose, les sondages. Ils disent quelque chose sur l'évolution de l'opinion. Voilà, ils ne nous donnent pas toutes les informations. Je préfère que nous soyons devant que derrière, ça c'est une grande constante. En revanche, ça ne vaut pas pronostic. Les sondages ne sont pas des pronostics, c'est une photographie de la situation politique. Et donc selon la progression ou la régression des uns des autres, ça nous donne une idée de là où nous en sommes. Mais jusqu'au dernier jour, cette primaire restera très, très particulière.
Toujours selon les enquêtes d'opinion, après le premier débat télévisé, dont on sait qu'il est très important, puisqu'il s'est regardé par des millions de personnes, les enquêtes ont dit encore victoire d'Alain Juppé. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de ce débat télévisé ?
D'abord, c'était un débat de bonne tenue, je crois que tout le monde l'a dit, bien organisé, avec de bons journalistes, des bonnes questions. D'abord, j'ai trouvé ça intéressant. Alors évidemment, c'était un débat de fond, et donc évidemment, les observateurs qui espéraient un petit peu plus de castagne en ont été pour leurs frais, mais moi j'ai trouvé que c'était un débat digne de l'enjeu, c'est-à-dire, au fond, de choisir celui qui portera les couleurs de la droite et du centre lors de la prochaine présidentielle. Je l'ai trouvé intéressant à titre personnel. Chacun des 7 candidats a pu faire valoir ses positions. J'ai trouvé que personne n'était sorti du lot, et que personne ne s'était effondré, en effet.
Est-ce qu'il n'y a pas finalement un risque pour Alain Juppé, après éventuellement cette primaire, s'il gagne, de se voir concurrencé par, si François Hollande par exemple ne se présente pas, par des gens comme Emmanuel Macron, qui pourraient finalement incarner une ligne un peu semblable, mais qui évidemment peut-être paraîtra plus jeune vis-à-vis de l'électorat, avec un renouveau plus grand ?
Écoutez, permettez-moi de me concentrer sur la prochaine étape qui va venir vite. Votre impatience sera vite satisfaite. Donc dans 37 jours, nous connaîtrons le résultat de notre primaire. À partir de là, la situation va s'éclaircir.
Est-ce que la campagne de Juppé va changer à ce moment-là ? C'est prévu ?
Non, nous avons conçu cette campagne des primaires et la future campagne des présidentielles, si elle a lieu, comme un continuum. Il ne s'agira pas de changer fondamentalement de ligne ou de ce qu'on va dire. La cohérence est, à mon avis, une vertu cardinale dans cette campagne présidentielle. Et c'est précisément, et nous avons été parfois critiqués pour cela, on nous a reproché de faire une campagne qui ne s'adressait pas à notre cœur de cible électorale, mais Alain Juppé, il plaque son projet, il l'a défini, il le déroule, comme on dit, et il ne compte pas changer de position après la primaire.
On a vu hier soir, au cours du meeting que tenait Alain Juppé à Rennes, il a déclaré lui-même, c'est pas folichon ce que je vous ai dit là, de fait on sent pas un enthousiasme, enfin une ferveur qu'on a pu voir dans certains autres meetings auprès de certains autres candidats. On lui reconnaît du sérieux, la stature d'homme d'État, un programme solide, mais il ne fait pas rêver. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement qu'il apparaisse comme le candidat par défaut anti-Hollande et anti-Sarkozy ?
Alors, d'abord, hier soir, il a abordé des sujets difficiles. Donc les sujets, quand on parle de dépendance, évidemment, ça ne fait pas rêver les foules, mais c'est des sujets importants dont il faut parler. Ensuite, une campagne présidentielle, elle ne se gagne pas au décibel. Elle se gagne au nombre de voix. Donc je préfère qu'on ait beaucoup de monde, moins de décibels, plutôt que plus de décibels et moins de voix. Quant au concept du candidat par défaut, je l'entends beaucoup, mais il n'est étayé par rien, à mon avis. Si Alain Juppé était un candidat par défaut, il n'y aurait aucune raison objective pour que le rejet d'autres candidats se cristallise sur lui. Normalement, si c'était un candidat par défaut, il y aurait une répartition beaucoup plus égale du rejet d'un autre, je sais à qui vous pensez, sur d'autres candidats de la primaire. Donc il y a une adhésion forte. Le taux de certitude des votants pour Alain Juppé est aussi élevé que pour les autres candidats. Il y a aussi aujourd'hui 80% des électeurs d'Alain Juppé à la primaire qui sont sûrs de leur vote. Et donc, il n'y a rien qui vient démontrer le fait que ce serait un candidat par rejet.
Cela dit, le c'est pas folichon d'hier Est-ce que c'est pas un problème, finalement, à terme, sur la longueur, c'est pas folichon de voter pour Alain Juppé?
Écoutez, si je vais vous dire, si on veut élire un battleur d'estrade, c'est probablement pas pour lui qu'il faut voter, ouais, je vous le confirme. Mais on est dans un moment de l'histoire de France où on a peut-être envie d'entendre la vérité, d'entendre des choses sérieuses, difficiles parfois, et aussi une espérance, un cap pour l'avenir. Voilà, c'est ce qu'il essaye d'incarner. Et pas folichon, il a qualifié lui-même son propre discours de pas folichon,
parce que je vous
ai dit qu'il abordait des sujets qui en effet n'étaient pas de nature à faire rêver l'électeur.
Notamment l'allongement de la retraite.
Toute dernière, alors, vraiment rapidement. Hein. Oui. Est-ce que vous croyez-vous à une participation d'un certain nombre d'électeurs de gauche déçus du hollandisme?
Mais les déçus du hollandisme de 2016, ce sont les déçus du sarkozysme de 2012, d'accord? On n'est pas à 100% de gauche ou 100% de droite. Parfois on est déçu par la gauche, on va voter pour la droite. Parfois on est déçu par la droite, on va voter par la gauche. Donc j'aimerais bien savoir quels sont les critères qui président à ça. Je veux dire, c'est écrit nulle part. Moi je suis de droite, bon bah très bien, et j'ai des sujets sur lesquels je suis probablement plus proche de la gauche. Bon, mais globalement je suis de droite. Et donc il y a des électeurs déçus du hollandisme qui veulent l'alternance. Ils ont bien raison de vouloir venir s'exprimer lors de la primaire du 20 novembre.
Et Juppé qui fait aussi la une, à moitié en tout cas, du LOPS.
Oui, j'ai vu
cette
ça.
Semaine. Voilà, alors la météo, ça sera instable. Merci beaucoup,
merci à vous.
Gilles Boyer, d'avoir accepté notre invitation. Encore de la grisaille sur le nord et le nord-est, et du soleil sur le sud. Température de 11 à 21 degrés. Édition réalisée avec Brice Garcia. 18h, ce sera Anne Fauquemberg. Et tout de suite, à Bruxelles, on retrouve Olivia Jesbert pour la dernière partie de la Grande Table.